Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vendredi matin, sur plusieurs antennes régionales de France 3, sera diffusé un documentaire de Jean-François Méplon et Fabien Lepage sur la grande époque des studios des Buttes-Chaumont. Une occasion pour Franck Ferrand de revenir sur les débuts héroïques de la télévision française. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Fabien Lepage est avec nous dans ce studio, mais aussi, je vous le disais, Marcel Bluval, à qui l'on doit quelques grands moments de télévision. Je me rappelle, moi, quand j'étais au lycée, nous avions étudié de très près, comme une œuvre classique, le Don Juan de Marcel Bluval. Avec Michel Piccoli, bien entendu. On pense aussi à la série Vidocq, entre autres, bien sûr.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Maxime qui voudrait connaître l'origine de cette coutume qui consiste à jeter des pièces de monnaie dans les fontaines.
Oui, dans les fontaines, à commencer par la fontaine de Trevi à Rome. C'est de là que vient vraiment l'habitude et la tradition. Pour le moment, je vous propose d'oublier un instant les couleurs qui vous entourent et de tout voir, de tout revoir en noir et blanc.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Si je vous parle de René Barthélémy, il y a de forts risques que vous ne sachiez même pas à qui je fais allusion. Nous sommes dans le laboratoire de ce qu'il faut bien appeler un génie. Oh, Barthélémy est le fils d'un petit tailleur de Nangis qui a été poussé dans ses études par des maîtres intelligents. Il avait 22 ans quand il est entré au service de radiotélégraphie de la Tour Eiffel. Et puis, il était très doué dans ce domaine. Il est entré à la compagnie des compteurs de Montrouge et c'est là qu'il a mis au point sa trouvaille. Et nous voilà. En ce mois de novembre 1931, nous voilà le grand jour d'une expérience publique qui a lieu entre le laboratoire de Montrouge, donc, où une employée, elle s'appelle Suzanne Bridoux, est filmée de profil devant un gros micro et un amphithéâtre de l'école supérieure d'électricité de Malakoff, où sur un écran de 40 cm de côté va s'afficher, va se mettre à bouger, va se mettre à vivre l'image de cette jeune femme qui se trouve loin dans le laboratoire. Pour le public, pour les 500 personnes qui sont là dans l'amphithéâtre, c'est un ébahissement. On n'avait jamais vu une chose pareille. On est en train d'assister non pas à la projection d'un film, on est en train d'assister à la transmission d'un signal, à la première émission de télévision de France. Je dis de France parce que en Angleterre, en Allemagne, d'autres expériences avaient déjà eu lieu. Cette expérience, donc, elle a lieu en 1931. Entre 37 et 39, l'émetteur de la Tour Eiffel va émettre quelques programmes dans un rayon de 100 km, depuis un studio de 20 mètres carrés installé à l'école supérieure des postes et télégraphes, rue de Grenelle. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait, à l'époque, c'est expérimental, bien entendu. On est au standard 180 lignes, tout ça est très peu net, très peu précis, bien sûr. Et c'est, comme souvent, la guerre qui va voir naître la véritable transformation, la véritable révolution. En août 1941, ordre de Berlin de démanteler l'émetteur de la Tour Eiffel pour des raisons de récupération de matériaux. Et là, il y a un certain nombre d'Allemands très influents en poste à Paris, à commencer par Kurt Hinzmann, qui est de la radio-télévision berlinoise, qui trouve que ça n'est pas normal qu'on démonte comme ça l'émetteur. On prévient le régime de Vichy, qui s'intéresse à la sauvegarde de cet émetteur de la Tour Eiffel, et on va comme ça créer une chaîne de télévision allemande émettant à Paris pour les soldats blessés, les soldats qui se trouvent à l'hôpital Beaujon. Ça va s'appeler Fernsehen der Paris, la télévision, le poste parisien, si vous voulez, version allemande. Il y a 300 récepteurs, ça vous donne une idée quand même de l'importance très relative de la chose. Alors on a cherché un endroit pour installer des studios, on a pensé au théâtre Georges V, mais qui était trop petit, au théâtre des Champs-Élysées, mais qui n'a pas de dépendance pour installer des régies, au palais de Tokyo, dont l'acoustique était difficile. Et c'est Hinzmann, toujours le même, qui va dénicher, près du pont de l'Alma, un endroit, un music hall, un lieu de meeting qui s'appelait le Magic City Dancing, qui était libre. Juste à côté, il y avait une pension de famille, tout ça est réquisitionné et ça va devenir les studios de la télévision allemande, inaugurés le 30 septembre 1953. il n'y a là qu'une cinquantaine de personnes encore hein, pour animer cette télévision destinée, vous l'avez compris, aux Allemands. Alors bien sûr, vous avez les actualités allemandes, mais il y a aussi des programmes de cirque, de music hall, de variété, sous la houlette d'un certain Gilles Margaritis, qui sera plus tard le producteur de la piste aux étoiles. Des programmes qui sont plutôt apolitiques. On a des cours de boxe de Carpentier, par exemple. C'est Henri Cochet, le grand joueur de tennis, qui donne des cours de tennis. Enfin bon, et ces programmes vont cesser avec la libération, évidemment, un tout petit peu avant la libération même, le 12 août 1944 à 23h30. Dans les jours qui suivent, un gamin se balade dans le quartier. Ça doit être assez intéressant, étonnant, cette période de la libération où tout est un petit peu en suspens. On ne sait pas exactement encore de quel côté tout ça va tourner. Ce gamin entre dans des studios abandonnés qui n'avaient même pas été fermés. Et voilà ce qu'il nous dit. Il y avait deux caméras, dont une était encore sous tension. Dans les bureaux, il n'y avait personne non plus. Seules subsistaient quelques notes de service épinglées au mur. On peut dire pour rire que j'ai libéré la télévision. Eh bien, le gamin en question, il s'appelle Pierre Badel. Il va devenir un des grands réalisateurs de Cognac-Jay, car on est bien là dans les studios de la rue Cognac-Jay, qui vont être reprises par la toute nouvelle télévision française, quelques semaines plus tard seulement. La télévision qui s'appelait la RDF à l'époque, qui va devenir la RTF en 1949. On peut dire que c'est le début d'une grande aventure. Alors, au tournant des années 50, c'est encore vraiment peu de choses. En 49, il y a 1000 récepteurs de télé en France. Un bulletin météo hebdomadaire. Il faut attendre le 29 juin 1949 pour voir apparaître le JT, le journal télévisé. On avait ici même, alors je suis tout fier parce que en 1955, dans ce studio où nous sommes, Omblin, juste derrière moi là, il y avait un tout petit studio qui s'appelait le JP, c'était le journal parlé. Eh bien, au même moment, on va voir naître le journal télévisé. C'est Pierre Sabag qui dirige tout ça. De même d'ailleurs que c'est Pierre Sabag qui avait créé le journal d'Europe numéro 1 à l'époque. Alors un journal qui a lieu trois fois par semaine, il faut le dire, pendant un quart d'heure. Ça va passer à 20 minutes en 1951. Enfin, puis on ne sait pas à qui on parle. On est dans une invention tout à fait nouvelle qui, pour l'instant, n'a pas vraiment d'adeptes et dont les abonnés se comptent, j'allais dire sur les doigts des deux mains, j'exagère à peine, puisque c'est Georges de Caunes, vous savez, qui, présentant le journal au début des années 50, commençait son journal en disant « Messieurs les directeurs, monsieur le téléspectateur, bonsoir ». C'est vrai qu'il dit lui-même « Je jouais sur le fait que rien ne prouvait qu'une personne même me regardait. Je dialoguais avec ce téléspectateur fictif en le priant de n'être ni malade ni distrait. » Mais tout de même, on a 3700, presque 3800 téléviseurs en 1950. Un programme qui commence à être de 20 heures par semaine. Télévision qui n'est pas riche, hein, tout de même, il faut bien le dire. Très intime. On est encore un peu dans l'expérimentation. Qui achète un récepteur de télé à l'époque? Des gens un peu ouverts aux technologies, qui ont une certaine curiosité, qui veulent aussi montrer à leurs voisins qu'ils sont branchés, hein, si je puis dire, qu'ils sont modernes. Il y a un effet d'entraînement d'ailleurs petit à petit, parce que au départ les postes ne sont répartis que de façon très aléatoire, et puis les voisins, les gens de l'immeuble viennent voir la télé, voyez, donc ça crée une sorte de la télévision qui aujourd'hui coupe les gens. À l'époque, elle les réunissait. Plutôt bon. Tout ça va créer un effet d'entraînement. Ça n'est pas très chic d'avoir la télé, il faut le dire. Il y a une enquête de 1952 assez drôle qui montre que, bizarrement, on s'adresse à un public cultivé, parce qu'évidemment, les postes coûtent très cher et c'est réservé quand même à une certaine élite. Mais en même temps, l'élite intellectuelle, elle, pour l'instant, ne veut pas en entendre parler. C'est tout le paradoxe de cette première télévision. Je vous propose d'entendre, ça ne va pas être la seule fois dans cette émission, quelques notes qui vont sans doute dire quelque chose à certains de nos auditeurs.
Sur Europe 1, la musique de la série Les Nouvelles Aventures de Vidocq avec Claude Brasseur, diffusée dès le 5 janvier 1971 sur la première chaîne de l'ORTF. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la naissance de la télévision française.
Je ne vais bien sûr pas vous assommer, Ombline, avec des considérations techniques, et d'autant moins que je serais bien incapable du reste de développer le propos. Mais sachez qu'il y a, pour simplifier les choses, deux grands standards de télévision à l'époque. Le 819 lignes, ça c'est le format Henri de France, et le 441 lignes. Alors, j'ai pas besoin d'aller très loin pour vous expliquer que si sur un écran vous avez 819 lignes et sur l'autre vous n'en avez que 441, évidemment, le deuxième va présenter une image moins nette, plus grossière. Néanmoins, les deux formats existent et donc il faut tout filmer en deux caméra à l'époque. Vous imaginez comme ça doit être pratique. Alors il y avait un tout premier studio dont je vous ai parlé, on en ouvre un deuxième en 1952. Des budgets commencent à s'étoffer un petit peu. On se perfectionne dans le tournage des dramatiques, notamment on va ajouter le fameux quatrième mur qui changera tout. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans le théâtre filmé. Petit à petit, on va s'aligner sur un standard moyen, si je puis dire, intermédiaire de 625 lignes. Et on s'organise exactement sur le modèle des radios. C'est en ça là que le rôle des radios a été essentiel dans cette naissance de la télévision. Vous avez à chaque fois une rédaction qui fait de l'information, bien entendu, et petit à petit des magazines qui vont naître timidement, et des programmes avec des émissions de divertissement, d'éducation, et ça c'est peut-être ce qui va nous intéresser nous aujourd'hui, puisqu'on va parler des buts de Chaumont, et des dramatiques, c'est-à-dire que on va faire de l'image, on va vous montrer des fictions qui sont filmées en direct. Ça, c'est toute la grande idée de Jean Darcy, notamment, qui disait que la télévision n'était pas un média d'enregistrement comme le cinéma, mais un média de transmission. Et donc, on doit transmettre un signal qui, au départ, lui, est en direct. Bon. Évidemment, disons-le clairement, l'information dans un premier temps se taille la part du lion. Mais peu à peu, on va voir se développer des studios, on va voir se développer des moyens de reportage également, avec des quarts de reportage équipés de transmetteurs. La première émission concernée, c'est la messe qui est diffusée le dimanche 25 février 1951 depuis l'église de Saint-Gervais. Le sport n'est pas loin avec les six jours de Paris au Veldiv, bien entendu. Et puis, je vous le disais, des gens qui se réunissent pour regarder la télé. On se réunit dans les cafés, dans ce qu'on appelle des téléclubs, de chez les voisins, donc bien entendu. Et puis, ne l'oublions pas, dans les vitrines des revendeurs qui laissent la télévision allumée aux heures de programme. Parce qu'à l'époque, il y a des heures de programme. On est très loin encore de diffuser en boucle, bien entendu. Les dramatiques sont réservées au tout début au mardi soir pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, c'était le jour de relâche. Aujourd'hui, c'est le lundi que ferment les théâtres. À l'époque, c'était essentiellement le mardi. Et donc, le mardi soir, on avait les dramatiques. Elles ont un succès immédiat. C'est vraiment ce qui va faire le succès de la télévision, beaucoup plus que les variétés, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et l'on voit peu à peu le territoire couvert de plus en plus. Et puis, les programmes qui s'allongent de 20, 25, 30 heures, 35 heures, bientôt 40 heures par semaine. Bon, ça devient vraiment presque une télévision quotidienne. Tout ça suppose, bien entendu, une très grande discipline parce qu'on a peu de moyens et des ambitions et des exigences immenses. C'est le rôle de Jean Darcy, mais ça, j'en parlerai avec Marcel Bluval dans un instant. Il est arrivé à l'été 52, Jean Darcy, à une époque où la télévision, alors là, est vraiment en train d'exploser. Hein. On a le deuxième quart de reportage qui vient d'arrivé avec notamment le match de football France-Allemagne du 5 octobre 52 qui va être le premier grand succès, si on peut dire, d'une diffusion télévisée. Et puis de grandes émissions de variété, grand orchestre, La Joie de Vivre, qui est doublé avec une émission de radio, 36 chandelles, bien entendu, à l'Alhambra devant 3000 spectateurs. Pour Jean Darcy, il faut surtout renforcer les dramatiques avec des équipes de réalisateurs, une douzaine de réalisateurs. Il nomme Bernard Hecht à la tête du service des émissions dramatiques et il le charge de promouvoir une politique d'auteur. Ça, c'est l'essentiel. C'est ça qui va faire la particularité de cette télévision française dont nous sommes aujourd'hui encore nostalgiques et qui va faire des émules dans le monde entier. Alors, il faut voir cette multiplication des genres. C'est toujours passionnant d'être à l'origine d'une grande invention parce qu'on voit, naître toutes sortes de genres, toutes sortes d'innovations. En 1953, on voit les premières émissions de littérature, émissions de cuisine, la télévision scolaire aussi. Et je peux vous dire que ça, c'était pas rigolo tous les jours, entre nous soit dit. Ça, c'est mes mauvais souvenirs d'enfance, moi, ça, la télévision scolaire. Et puis, deux grands événements, bien sûr, qui sont retransmis. Je pense notamment au sacre de la reine Elisabeth II d'Angleterre, le 2 juin 1953. Et rien que pour l'occasion, on vend près de 10 000 récepteurs en France. Vous voyez, donc ça, ce sont tous ces grands événements qui contribuent au développement de la télévision, bien entendu. On est désormais en direct de 9 ou 10 heures du matin à 7 heures du soir. On suit les grands événements grâce à la multiplication des cars qui vont sur place, qui installent des régies sur place. On s'étend à Cognac-Jay et puis on va également s'étendre au Butte-Chaumont. Ça, on va y venir dans un instant. C'est en 1953 qu'a lieu cet incendie de ce qui était autrefois des studios de cinéma, ce qui était la Maison Gaumont en quelque sorte. On va en profiter pour tout refaire à neuf, si je puis dire. Et ça va être le début de la grande aventure des Butte-Chaumont. Mais je n'empiète pas sur ce chapitre puisque c'est ce que nous allons raconter dans un instant avec mes invités. 1954, c'est l'Eurovision qui naît à l'occasion de la Coupe du Monde de football qui a lieu en Suisse. On suit également les courses d'Ascot, les 24 heures du Mans, le Palio à Sienne. Vous savez, cette course incroyable de chevaux autour de la grande place de Sienne, etc. Le premier discours d'un pape transmis également à la télévision en 1954, c'est Pie XII, le pape à l'époque. Et puis, des hebdomadaires spécialisés qui voient le jour. On est en train de voir naître ce qu'on va appeler le kinescope, c'est-à-dire un procédé d'enregistrement. Ça, c'est très pratique, notamment pour les émissions de magazines qui vont disposer désormais d'archives et d'images à diffuser à la demande. Un troisième studio naît à Cognac-Jay pour le journal télévisé. Et l'on voit naître un certain nombre d'émissions originales face à la presse, face à l'opinion, etc. Il ne faudrait pas croire, en dépit de ces titres un peu accrocheurs, que la télévision soit le moins du monde indépendante du pouvoir, le moins qu'on puisse dire, et que le pouvoir garde à l'époque un œil très très intéressé sur ce qui peut bien se dire sur l'antenne de télévision. Le premier événement en direct inattendu, si je puis dire, le premier choc pour les téléspectateurs, c'est le célèbre accident des 24 heures du Mans en 1955. On en avait parlé, on avait raconté ça avec Laurent Luya à ce même micro. Vous savez qu'une voiture va se quitter complètement, la piste allait se désintégrer dans la foule et le journaliste qui est à l'antenne, Jean-Jacques Rebuffat, va fonctionner sur ses réflexes de journaliste et faire un reportage. On change complètement de propos, bien entendu, on maintient l'antenne, ça va être là encore, si je puis dire, une publicité considérable pour la télévision, car dès le lendemain, il y aura ceux qui auront assisté à l'événement et puis tous les autres, bien entendu. Et ça donne envie aux gens. D'autant plus qu'on est dans la miniaturisation des caméras également. Donc on a des caméras de plus en plus transportables. Il ne faut pas oublier qu'on a adapté un certain nombre de programmes radiophoniques aussi, avec des jeux notamment, un petit peu didactiques, un petit peu sévères, sans doute. Mais il n'empêche que en 1956, il y a plus de 400 000 récepteurs de télévision en France, environ 2 millions de téléspectateurs réguliers. C'est l'époque où l'info va échapper à Jean Darcy, on y reviendra. Pierre Sabag, qui était venu créer le journal Parlé d'Europe numéro 1, justement, est de retour au journal télévisé, donc à la télévision, à la RTF, bientôt RTF. C'est Mendès France puis Edgar Faure qui, les premiers, vont utiliser la télévision, alors là directement à des fins politiques, avec un service ministériel adéquat, etc. Et l'on va commencer, c'est très intéressant parce que vous voyez quand même qu'on est assez tard, on va commencer à lancer de grands programmes culturellement très ambitieux avec la retransmission de l'enlèvement au sérail du festival de Salzbourg en 1956, les émissions d'André Franck, ça, c'est le début de ce qu'on va appeler la grande école des Butte-Chaumont.
au cœur de l'histoire, votre émission. Et quand vous le souhaitez, chers auditeurs, vous pouvez réagir cet après-midi. Nous envoyer vos messages, vos questions. Il y a la page Facebook de l'émission, par mail europe1.fr, via Twitter, celui de Franck, ou hashtag ACDH. On vous garde avec nous sur Europe 1. Nous retournerons au cœur de l'histoire des débuts de notre télévision française.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Europe 1 en noir et blanc cet après-midi avec vous, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des débuts de la télévision française.
Et oui, et on peut dire que les années 1956-57 vont voir naître cette télévision d'auteur, cette télévision incroyablement exigeante et ambitieuse qui va faire les grandes heures des Buttes-Chaumont. Pourquoi est-ce que lorsqu'on évoque ces studios des Buttes-Chaumont, on est toujours plein de nostalgie? C'est parce que justement, on était dans le tour de force quasi quotidien, en tout cas hebdomadaire, avec des projet toujours plus étonnant. Il faut vous dire qu'on invente tout à l'époque. Quand je dis on invente, soyons honnêtes, en 56-57, les États-Unis sont largement passés devant et tout existe déjà là-bas. Mais ce sont des programmes beaucoup moins exigeants, incomparablement. Le premier feuilleton, ce sera le Tour de la France par deux enfants. Vous savez, le très célèbre livre d'éducation du 19e siècle qui est adapté par Claude Santelli. On va avoir également l'adaptation d'une nouvelle par Jacques Armin, Claude Barma, c'est Mister Battle-Lee. Et puis, le fameux « Si c'était vous », ça c'est Marcel Moussy et Marcel Bluval, bien entendu. « Si c'était vous », ce sont, on peut dire que c'est un premier essai d'une dramaturgie de la réalité, d'une certaine manière, le réel qui entre à la télévision, Marcel Bluval.
Premier essai mondial, effectivement. Enfin, on sait depuis que ça a été le premier essai mondial de dramatique, comme on disait, c'est-à-dire de fiction ouverte sur des problèmes sociaux. Et la caractéristique que j'avais trouvée en était qu'il n'y avait pas de fin. On ne concluait pas par une fin heureuse ou malheureuse, on laissait ouvert. Et ça a fait un bousin incroyable.
Hein. Évidemment, ça a complètement révolutionné l'approche qu'on avait de la télé.
Pour dire la vérité, il faut dire que un jour, Darcy, en 56, les studios des Buttes venaient d'ouvrir finalement, nous convoque à quatre. Lorenzi, Barma, moi et Lourcet. Et il nous dit, bon, le répertoire traditionnel du théâtre que vous avez exploité jusqu'à présent, pour en faire des dramatiques, comme on disait, ça vient à extinction, on n'a plus rien d'intéressant à montrer, vous allez nous faire des émissions originales, avec des auteurs. Mais c'est vous les patrons, les metteurs en scène. Différence avec la BBC et où voilà. Pinter était le patron et les metteurs en scène étaient les servants du scénariste.
Là, c'est l'inverse.
Là, c'est l'inverse. La télévision française a cette particularité d'avoir été la seule télévision mondiale où les metteurs en scène de télévision ont eu le pouvoir. Pouvoir qu'ils partageaient et on se battait avec les ingénieurs techniciens. Bon, enfin, ça, c'est une autre affaire.
Un pouvoir dont il faut dire que c'était un pouvoir de faire des merveilles, de réaliser de belles œuvres.
Hein, c'est vous qui jugez.
Oui, mais en tout cas, c'était pas un pouvoir au sens où on pourrait l'entendre.
Et alors, il nous dit, vous revenez me voir la semaine prochaine et vous avez chacun une idée d'émission. Et Lourcet est arrivé avec les 5 dernières minutes. Lorenzi est arrivé avec la caméra explore le temps. Barma avec les tribunaux...
Le tribunal de...
Non, les tribunaux, vous savez.
Ah oui, oui, les procès, en fait.
Les procès, oui. Et moi, je suis arrivé avec Si c'était vous. Et ça a été une révolution, pratiquement, dans la télévision française et, paraît-il, dans la télévision européenne.
Et à ce moment-là, la télévision devient vraiment, au-delà d'un média, ça devient presque un art à part entière. Tout le monde veut des postes et l'on va assister à cette explosion extraordinaire. Plus d'un million de téléviseurs à la fin de 1959, près de 2 millions en 1963. Ça y est, on peut dire qu'à ce moment-là, la télévision est devenue un média de masse. Je n'ai même pas eu le temps de vous présenter Marcel Bluval. Vous voyez qu'il avait déjà pris la parole et il a fini lui-même le récit d'aujourd'hui.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Si le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier, dont l'ouverture orchestrale que nous venons d'entendre sert d'introduction au concours Eurovision de la chanson, au cœur de l'histoire de la naissance de la télévision française et des studios des Buttes Chaumont avec vous, Franck Ferrand, et vous recevez Fabien Lepage, auteur et co-réalisateur du documentaire Les Buttes Chaumont, studio de légende, diffusé sur plusieurs antennes de France 3 vendredi matin à 8h45 et déjà visible sur plus.fr. Avec vous également le réalisateur Marcel Bluval, qui a exercé dans les studios au début de Chaumont des années 50 au début des années 80.
Et qui a même fait mieux que ça, Omblin, puisqu'il me disait, Marcel Bluval, qu'en vérité, c'est lui qui avait choisi ce que nous venons d'entendre, ce Tédéum de Charpentier pour l'Eurovision en général, pas seulement le concours chanson d'ailleurs, pour l'Eurovision.
Mais pas seul.
Alors, expliquez.
Pas seul. Il se trouvait par hasard que Barma et moi, on était sur le studio 2 à Cognac-Jay. Darcy descend avec un illustrateur sonore et deux disques sous le bras. Il me dit, tiens, Bluval et Barma, puisque vous êtes là, écoutez ces deux disques. Lequel vous choisiriez pour l'Eurovision? Moi, j'étais spécialiste des émissions de musique classique à la télévision. Je reconnais le Charpentier. Je dis, l'autre, c'était, je crois même, le quatrième mouvement de la neuvième de Beethoven. Et je dis, Charpentier. Il m'a dit, vous croyez? Ah, vraiment? Oui, c'est français.
Et ben voilà. Il y en a un qui était français, l'autre allemand quand même. Oui. On n'allait pas hésiter très longtemps. Alors bonjour Fabien Lepage.
Bonjour.
On vous a pas encore entendu.
Mais non.
C'est vous qui avez eu cette idée magnifique de faire renaître, si je puis dire, ces studios des Buttes Chaumont qui ont en quelque sorte enchanté votre enfance.
Ça a vraiment bercé mon enfance, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Les Buttes Chaumont, c'est vraiment la télé de mon enfance. Je suis né au tout début des années 70 et j'ai été bercé par les émissions de Jacques Chancel. Ma mère était une fan absolue.
Le Grand Échiquier, qui, grâce à Frédéric Taddeï, a connu une renaissance
il y a quelques semaines.
Oui, j'espère que ça va continuer d'ailleurs.
Ouais. Donc j'ai été bercé par les émissions de Jacques Chancel, les shows de Maritier et Gilbert Carpentier, bien évidemment, les premières émissions aussi de Michel Drucker en tant que présentateur de certaines émissions de variété. Là, on est dans les années 70. Et ces choses-là sont restées dans un coin de ma mémoire jusqu'au jour où je suis venu habiter en fait au Buttes Chaumont. Et les studios n'existent plus, hein. Il n'y a plus aucune trace maintenant, mais ça je pense qu'on va y revenir. Mais il y a une ambiance assez particulière qui règne sur ce site.
Moi j'ai eu la chance de connaître la toute fin des studios des Buttes Chaumont et d'assister à deux ou trois émissions là-bas. Il y avait une atmosphère très particulière. On avait l'impression que c'était quand même bien un temple de la télévision, Marcel Bluval. On était dans quelque chose de différent, si je puis dire.
Il avait été construit pour ça.
Hein. Voilà.
En fait, les Buttes Chaumont ont été la vitrine de ce que la France savait faire sur le plan de la télévision, et la France se prétendait la première et en avance. D'ailleurs, il y avait le 819 lignes qui a échoué.
Lignes
allemand qui a fini par primer. Mais on était toujours à la pointe du progrès. Il fallait que les studios soient les plus beaux, les meilleurs, les plus lourds, les plus bétonnés, les plus... Et d'ailleurs, on les faisait visiter comme tels par les délégations étrangères qui naissaient à la télévision. Il était normal que sur nos émissions dramatiques en direct encore, on ait des Japonais qui viennent, guidés par Darcy lui-même ou par Olivier Plutard.
Oui, alors évidemment, le grand pays de la télévision, ça a été les États-Unis, incontestablement. Mais le pays où la télévision a acquis ses lettres de noblesse, on peut dire que c'est en France. La radio avait connu ses grandes heures en Angleterre, la télévision a connu les siennes en France.
Pour une raison très simple, c'est-à-dire que les metteurs en scène qui étaient de fondation, il n'y a pas que ceux dont j'ai nommé, Badel que vous avez nommé, il y avait Pratt qui était quelqu'un d'énorme, il y en avait plein, hein. Le certiseur, ils arrivaient de l'IDEC. Et tous ces gens-là venaient
du cinéma, voilà.
Donc il fallait reproduire du faux. D'ailleurs, Darcy n'a fait ni une ni deux, il nous a convoqués, il nous a dit « Le cinéma me refuse ses films, il y avait qu'un film le dimanche soir, vous faites du faux cinéma. » C'est-à-dire, en Angleterre, ça a été plus ou moins au théâtre ce soir. Chez nous, il fallait reconstituer l'univers cinématographique avec du faux cinéma, des espaces notés au sol, en trois dimensions vraiment, avec des gros plans, des plans moyens, des plans généraux, et surtout cette difficulté majeure qui était ce qu'on appelle le champ contre champ.
Alors on va venir dans un instant aux conditions de réalisation de ces dramatiques, encore une fois, en direct. Revenons avant cela un instant sur les studios eux-mêmes. Qu'y avait-il avant la télévision dans ces studios des Buttes Chaumont, Fabien Lepage?
Avant la télévision, à partir de 1895, dans la... on remonte vraiment
À la toute fin du 19e siècle, à l'invention du cinéma en fait. Hein.
Exactement, c'est l'invention du cinéma, la naissance du cinéma. Et Léon Gaumont choisit de s'y installer, donc sur ces fameux terrains des buts de Chaumont. Au départ, il fabrique des appareils photo, puis arrive le cinéma. Et de fil en aiguille, il y construit un premier studio. Donc là, on est vraiment à la fin du 19e siècle. Un premier studio qui verra la réalisation d'un premier film qui est réalisé par l'assistante en fait de Léon Gaumont. Et voilà, l'aventure, en fait, elle démarre là, en 1880. 16,
ça,
exactement.
Ça reste un lieu dédié au cinéma, oui, pendant très longtemps. Mmh. Et puis au tout début des années 50, il y a cette catastrophe dont je parlais.
Il y a le fameux incendie, Marcel.
Providentiel.
Ah, oui, providentiel, oui, oui, c'était une aubaine.
On s'est tous dit qu'il avait été organisé, oui, par les ingénieurs pour pouvoir construire leur studio.
Exactement. Donc au début des années 50, la télévision française arrive sur le site des buts de Chaumont, qui sont plus ou moins à l'abandon à ce moment-là, puisque Léon Gaumont, ou en tout cas...
Avant l'incendie.
Oui, bien avant l'incendie.
Avant l'incendie, oui. Et donc la télévision française s'y installe et là arrive et naît une nouvelle aventure, celle de la télévision. Donc c'est un lieu qui est vraiment marqué par l'histoire du cinéma et de la télévision. C'est un vrai lieu de création.
Mais ça n'est pas un hasard si ce média cinématographique d'une certaine manière, c'est ce que vous nous disiez, Marcel Bluval, c'est-à-dire que au lieu de copier le registre et les modes du théâtre comme en Angleterre, on va copier ceux du cinéma. Et c'est pas un hasard si ça naît dans un lieu qui au départ était dédié au cinéma.
Ah, pour nous, la liaison s'est faite sans aucun problème. Notre problème à nous, c'était que les conditions d'exercice du métier, c'est-à-dire qu'on travaillait sans filet et au vol,
voilà, c'est ça.
On répétait 3 semaines les textes.
Parce que il faut expliquer ça notamment à nos plus jeunes auditeurs. Évidemment, certains savent ce que nous allons dire là, mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié aujourd'hui que, contrairement au cinéma où l'on a des semaines et même des mois pour tourner 110 minutes d'histoire, là, vous tourniez tout en direct. C'est-à-dire que vous commenciez l'histoire du début jusqu'à la fin avec les changements de décor, avec les personnages qui arrivaient, qui parfois devaient vieillir dans le temps d'une dramatique. Tout ça se faisait en direct. Ça paraît incroyable.
Dans une chronologie seconde après seconde, exactement comme un match de tennis.
C'est ça.
Avec les mêmes aléas et parfois la balle passait en touche. Hein. Il y avait des perches qui rentraient dans le champ parce qu'au début, on avait 2 jours et demi pour répéter toute la technique, c'est-à-dire 300 ou 400 plans placés au sol avec des places précises d'acteurs devant qui avaient à évoluer selon des itinéraires qu'on avait répété pendant 3 semaines quand même. Parce qu'avant, on travaillait, bien sûr. De sorte que, de sa conception à son émission finale et son envol sur les airs sans aucune trace...
C'est
parce
ça,
qu'il restait,
oui,
rien.
Il n'y avait pas d'enregistrement.
Ça durait 6 semaines à 2 mois, quoi.
Oh, c'est incroyable.
Et donc 2 jours et demi de technique, 1 jour et demi pour placer les plans, une première générale, et après on passait.
Vous aviez combien de caméras ?
Au début 3, après 4.
4 caméras en tout ?
Oui, et en panne. Non pas en tout, mais en panne, souvent, oui. Les fers à souder étaient toujours branchés.
Hein. Des décors, alors c'est Alain Decaux et André Castelot qui m'ont raconté ça, mais des décors qui se déplaçaient à vue d'œil, c'est-à-dire que vous changiez les murs, les plafonds, etc. en fonction de ça.
Mais bien entendu, mais le service de la décoration, parce qu'on voulait des décors fermés comme au cinéma, le service de la décoration a été le plus beau service de décoration de télévision du monde pendant quelques années.
Ah oui, et on entendait quand même, quand on fait attention aujourd'hui, si l'on prend un certain nombre d'émissions, on entend les bruits de plateau, on entend des décors qui se frôlent, on entend des rails de travelling qui sont parfois mal ajustés, on entend
non,
aussi
il n'y
avait
pas de travelling. Alors, c'était un pied qui bougeait,
c'est le pied lui-même.
Ah oui, alors mais le imaginez. Pied avait été conçu en 1933 par Éclair pour supporter une caméra de cinéma. Ils n'étaient pas faits pour rouler. Et ils n'étaient pas faits ni pour monter, ni pour descendre, comme les pieds de maintenant.
Et alors, il fallait non seulement que les comédiens apprennent parfaitement leur texte, bien entendu, puisqu'ils jouaient tout en direct, mais il fallait que vous, réalisateurs, vous sachiez au détail près tout ce qui allait se passer. J'imagine que vous aviez des scripts très détaillés, hein, bien sûr.
Nous, mais une des caractéristiques de la France, ça a été aussi que les metteurs en scène passaient les boutons, comme on dit. C'est-à-dire que c'est eux qui faisaient les changements de plan et le montage.
C'était presque aussi complexe qu'un direct au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Vous êtes au cœur des studios Début de Chaumont cet après-midi sur Europe 1 et au cœur des débuts de la télévision française. Vos invités, Franck Ferrand, l'auteur du documentaire Les Buts de Chaumont, studio de légende Fabien Lepage, et le réalisateur Marcel Bluval.
Vous disiez, Marcel Bluval, qu'au moment de la prise d'antenne, le stress était considérable dans les studios Début de Chaumont, parce qu'évidemment, on n'avait pas le droit à l'erreur, là, ça devait être incroyable.
Non, tout le monde se préparait. D'ailleurs, le rendez-vous était bien entendu aux urinoirs de l'étage. Parce qu'il fallait prendre ses précautions. Et puis, le nombre de merdes, parce que c'est traditionnel de dire merde avant au théâtre.
Oui,
avant,
les gens s'envoient comme ça, des apostrophes.
Il ne faut surtout pas dire merci. Ouais. C'était incroyable. C'était des dizaines. Et très curieusement, il y avait les caméramens étaient des fonctionnaires à l'année. Nous, on était des vacataires à la semaine. Mais tout le monde était réuni par un trac abominable. Et moi, d'ailleurs... au fur et à mesure de l'émission, je me dépoilais et je finissais en slip. Enfin, je veux dire. Mais il y a eu des AVC. Il y a eu des AVC sérieux par stress. Ouais. Par stress réel.
Les gens faisaient des crises cardiaques, c'est ça, ou des AVC?
Ah, bah, il y a eu, oui.
Oui, bien entendu. C'était quand même tout ça était difficile. Et on voyait naître une sorte d'esprit de corps et d'esprit de troupe chez les comédiens. On va y venir dans un instant, mais aussi chez les techniciens. Il faut dire ça aussi. Hein, parce qu'il y avait, on a eu quand même la constitution petit à petit d'une équipe extrêmement soudée. Fabien Lepage.
C'était effectivement des gens qui travaillaient ensemble, c'était une troupe effectivement, oui, c'était vraiment ça, entre les techniciens, les acteurs, les réalisateurs, on avait vraiment l'impression, moi je ne l'ai pas vécu bien évidemment, mais on avait vraiment l'impression que les gens étaient une sorte de oui c'est ça, une troupe.
Vous parliez des décorateurs, tout à l'heure il y avait les menuisiers, etc. Mais il faut parler des costumiers aussi, etc.
Il y avait
des
éclairagistes. La plus belle collection de costumes d'Europe, elle a été vendue après à Lancan. Mais enfin, ce qui était extraordinaire, c'était le sentiment qui est venu petit à petit, ça n'a pas été tout de suite, d'être dépositaire finalement d'une volonté de culture.
Et comment est-ce qu'on... Mais bien sûr. Et la volonté sans doute de faire rayonner tout le patrimoine français dans le domaine du roman, du théâtre, de la musique, etc. etc.
Bien sûr, et puis comment dire, l'argent, bien sûr il y avait des budgets, il y avait tout ça, mais la volonté de diffuser la culture passait avant le problème de rentabilité. S'il y a une grève en ce moment sur la télévision, sur la radio nationale, c'est parce qu'il reste quelque chose de cette volonté de culture dans la grève qui a lieu.
Oui, bien entendu. Alors, tous ces talents, en quelque sorte, constituaient vraiment une équipe ou est-ce qu'il y avait, comme partout, des rivalités?
On s'adorait tous, on se connaissait tous, on se fréquentait tous, on se haïssait.
Et voilà.
Parce qu'il y avait une ambiance, finalement, de classe de première. Il fallait être le premier, et il y avait quoi, 30 metteurs en scène de dramatique. Alors, il fallait être le premier de la liste.
Et les comédiens, comment étaient-ils choisis?
Ah, bah, par nous. Je veux dire que...
Mais des castings,
jamais, non, même pas. C'était le premier assistant et le metteur en scène qui choisissait en toute liberté, sans aucune contrainte, la distribution qu'il voulait. De sorte qu'il est né là, à partir de gens qui sortaient du conservatoire ou des gens qui faisaient du théâtre, une espèce de troupe de gens qui aimaient faire ça. Piccoli, Riche, Denner, Marielle...
Vous avez eu tous ces comédiens sous vos ordres.
Je les ai même eu tous dans la même émission, une fois qui s'appelait Les Joueurs, et qui est réédité d'ailleurs, et où ils sont absolument extraordinaires.
C'est quand même une sacrée distribution, là.
Ah ben, oui, il y avait tout ça, oui.
Oui. Tous en même temps, d'une certaine manière. Quelle était l'attitude du pouvoir? Parce qu'à partir de 1958, sont les années gaulliennes, oui. C'est le retour au pouvoir du général de Gaulle. On a souvent parlé du fameux ministère de l'Information, oui. D'Alain Perfit, etc. Il y avait une mainmise de l'État et du pouvoir sur les Buts de Chaumont?
Alors, oui et non. À savoir que le général de Gaulle, effectivement, était très présent au niveau de l'information. Et quand on parle de censure à l'époque, ce n'est pas une légende, il y a une véritable censure. Il faut que les sujets soient validés avant le journal télévisé par effectivement les hautes instances de l'État. En revanche, et Marcel nous en parlait et nous en parle d'ailleurs dans le film, au niveau de la création, la censure n'est pas si présente que ça. Finalement, vous aviez une certaine liberté.
Comment on nous foutait la paix, ouais. Le père royal. C'est très simple. Le lendemain d'une émission, moi, j'allais voir le directeur de la fiction de l'époque, qui était André Franck, après avoir été Bernard Hecht, et il me disait, qu'est-ce que vous faites la prochaine fois, mon cher ami? Et puis je choisissais en toutes les... Un jour, j'ai, à une époque où Cazeneuve était le patron, qu'il était lui-même un très bon réalisateur, oui. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais la prochaine fois ? J'ai dit, je fais Les Misérables. Il m'a dit, ah oui, je peux te donner 4 heures. Et on n'a pas qu'à parler du, même du prix que ça pouvait coûter. J'avais envie de faire Les Misérables, et ben d'accord, faites donc Les Misérables. C'est quelque chose de totalement inimaginable pour nous, pour maintenant, et qui nous paraissait d'un naturel absolu.
Quel creuset, quel bouillon de culture, d'une certaine manière.
Oui, avec une espèce d'autocensure qui concernait le mineur dans un... qui n'était pas la ménagère de moins de 50 ans qui va acheter ses, qui fait ses courses avec son caddie, mais qui était le mineur dans un soucieux de culture.
Alors ça, c'est pour les dramatiques qui vont changer avec l'apparition à partir des années 1960-61 du magnétoscope, enfin de l'enregistreur.
Surtout du film.
Et puis du film, c'est-à-dire du télé.
Non, c'est-à-dire que sous notre pression, d'ailleurs, Olivier, qui est le patron à ce moment-là, choisit de créer un service cinéma et tout en conservant le but de culture, la télévision passe de dramatique, en tout cas, passe de la dramatique en direct au téléfilm, c'est-à-dire
voilà,
on devient...
C'est-à-dire qu'on fait un film et ensuite on le filme pour la diffuser à la
télé. On le filme à la télévision voilà. Au lieu de le filmer au cinéma et ça fait des différences.
Oui, mais ça bien entendu. Et ça, ça va changer complètement, ça va faire évoluer l'art télévisuel, bien entendu.
Complètement. Hein.
Complètement, oui.
C'est-à-dire que le culte du gros plan à cause de la télévision est né dans le cinéma par la télévision.
Et c'est l'apport de la télé au cinéma. Alors, ça c'est pour les dramatiques, mais il y a tout le divertissement qui va se développer. On parlait du Grand Échiquier tout à l'heure, mais il y a eu toutes les grandes émissions de Michel Drucker, etc. On est plutôt fin des années 60, début des années 70,
oui,
en fait.
Hein.
Marie-Thigier et Gilbert Carpentier, c'est numéro 1 tous les samedis soirs.
Oui, on est entre le milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Hein, même le début des années 80. Là, c'est vraiment l'avènement des émissions en plateau, des grandes émissions de variété, puisque Marcel l'expliquait, les grandes dramatiques, c'est presque fini. En fait, on n'en tourne plus du tout au but, ou très peu à titre exceptionnel. Et ensuite, les studios, il faut bien qu'ils servent. Et les émissions de variété, entre les années la moitié des années 60 jusqu'aux années 80, alors là, va être le genre prédominant à la télévision française. Oui.
Qu'est-ce qui explique la fin des studios début de Chaumont ? Puisqu'ils avaient été un modèle pour la planète entière, que s'est-il passé ? Pourquoi les a-t-on abandonnés comme
Il s'est passé énormément de choses qui ont contribué à la fin de ces studios. Je pense qu'il y a un premier choc en 1974 avec notamment ce qu'on a appelé l'éclatement de l'ORTF.
Oui, bien sûr, oui. La création des chaînes.
Hein, la création des chaînes, etc. Je pense que ça affaiblit en grande partie déjà l'activité des studios. Donc ça, c'est effectivement...
Puis il y a la création de la SFP qui a ses propres studios, qui sont héritiers de ce début de Chaumont, mais pas au même endroit. De sorte que il y a une... Et puis, il y a le vieillissement des studios, parce que rien ne vieillit plus vite qu'un studio de télé ou de cinéma.
Il faut l'adapter constamment à la technologie. Hein,
même en radio.
Et puis, on va voir naître les chaînes privées, alors encore un peu plus tard, tournant des années 80,
cette
fois.
Voilà, l'ouverture au privé, à la concurrence, et ça vaut non seulement pour les chaînes, mais en plus pour les sociétés de production. Et la SFP, et entre autres les studios débutent, se retrouvent mis en concurrence avec de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché.
Voilà, et qui dit donc concurrence, etc., dit primat de l'audience. Nous y voilà, le
Exactement.
Fameux Audimat qui vient se mêler de tout ça. Alors évidemment, quand on veut faire des dramatiques sur les grands classiques, ça, l'Audimat, c'est un peu embêtant.
Un peu plus compliqué.
Mais oui, mais ça a joué un rôle considérable, ça, sur l'évolution même de la télévision.
L'Audimat a été aussi un choc, oui, je pense que l'audimat est arrivé au fur et à mesure. Hein, les premières expériences.
Les mesures d'audience, c'est très ancien. Oui. Sauf qu'on nous les communiquait.
Oui, à titre informatif.
À titre privé. Voilà. Et d'autre part, on ne les communiquait pas au public. C'était même interdit.
Et voilà. Ça fait
et puis,
la
du jour où l'audimat est devenu public, bon, l'argent a primé sur l'artistique, point final, et puis on n'en a plus parlé, quoi.
Merci infiniment, Marcel Bluval, d'être venu nous rendre visite. Nous sommes très fiers de vous avoir eu pendant une heure pour nous faire revivre cette période passionnante des studios, notamment début de Chaumont. Ce sont ces studios début de Chaumont, Fabien Lepage, que vous nous présentez dans ce documentaire, Les Buts de Chaumont, studio de légende. À voir donc, que je ne me trompe pas, vendredi matin.
Ouais,
alors, pour tout ce qui est Bretagne, Pays de Loire, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Pays Paris-Île-de-France et Centre, et puis, d'une façon plus générale, sur Pleuse.
Sur Pleuse,
tout simplement.
Voilà, dès à présent.
Et ça s'appelle la télé à la carte, c'est autre chose.
Vous avez reconnu la musique des 5 dernières minutes et lors de nos 5 dernières minutes à nous sur Europe 1, Franck Ferrand, vous répondrez à la question de Maxime qui s'interroge sur la coutume des pièces de monnaie jetées dans les fontaines.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et une question de Maxime aujourd'hui via la page Facebook de l'émission. Maxime vous demande, Franck Ferrand, quelle est l'origine de la coutume qui consiste à jeter des pièces de monnaie dans les fontaines?
C'est une origine qui se perd sans doute dans la nuit des temps. Il y a toujours eu quelque chose d'assez mystique qui s'attache aux sources. Vous savez, cette eau qui provient comme ça du fond de la terre, ces sources, et bien entendu les fontaines qui les canalisent et qui les font chanter, ces eaux. Alors depuis la plus haute antiquité, on a vu s'attacher à ces sources, à ces résurgences aquatiques, on a vu s'attacher des divinités et donc des croyances. On a pratiqué toutes sortes de superstitions. On s'est mis à jeter tôt de l'argent dans les sources. Vous savez que par ailleurs, on disait autrefois que lorsqu'on mourait, on devait franchir le Styx, hein, le fleuve des enfers, et payer l'Achéron ou Caron, hein, lui donner l'obol. Bon, bref. Donc il y a toute cette espèce de tradition propitiatoire qui s'attache à la source et à l'eau. Alors, la fontaine où l'on a eu tendance à multiplier les dons, c'est la fontaine de Trevi à Rome. Alors, on dit qu'il faut prendre une pièce de monnaie, la jeter par-dessus son épaule droite, de dos, hein, bien entendu, dans la fontaine de Trevi, et ça voudrait dire qu'on reviendra un jour à Rome. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que ça permet aux autorités romaines de récolter chaque année 700 000 euros.